Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je fus dans la joie quand on me dit, nous irons à la maison du Seigneur, que la paix soit dans ton enceinte et l'abondance dans tes palais. Mes très chers frères, peu à peu, la fin du monde approche. Je veux dire la fin de l'année liturgique, qui représente la fin du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt, il est à la porte, et l'Église en ce jour, qui est le 18e dimanche après la Pentecôte, veut tout à la fois nous encourager et affermir notre foi et notre pratique afin que nous soyons prêts lorsque le dernier jour arrivera. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, nous avons à voir la doctrine de la gratitude, le fait d'être reconnaissant envers Dieu qui nous est exposé dans les textes de la messe d'aujourd'hui. Nous allons avoir les trois caractéristiques de la véritable reconnaissance. Ensuite, nous allons voir qu'en amont de la gratitude, il y a la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la volonté salvifique efficace de Dieu, notre Père. Et en dernier lieu, nous allons voir les raisons de persévérer dans la gratitude et les moyens de s'assurer que l'on est vraiment reconnaissant. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Écoutez ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens aujourd'hui. Mes frères, je rends pour vous, à mon Dieu, des actions de grâce continuelles à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, en qui vous êtes devenus riches de toutes sortes de biens, de tous les dons de la parole et de la science, le témoignage du Christ ayant été solidement affermi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Un auteur nous dit que il apparaît par ses paroles que saint Paul ne craint rien tant que l'ingratitude. C'est pour cela qu'il dit, je rends pour vous, à mon Dieu, des actions de grâce continuelles. Ce n'est pas une action de grâce ponctuelle, il faut en faire bien sûr, mais continuelle, et c'est mieux. Un autre auteur nous dit que l'action de grâce doit être non seulement la fin, mais le commencement de tous nos discours et de toutes nos œuvres. Saint Paul, qui a tant accompli pour l'Église, qui a tant accompli pour l'Évangile, pour notre Seigneur Jésus-Christ, rendait constamment des actions de grâce à son Dieu, c'est-à-dire au nôtre. Il n'attendait pas d'avoir terminé une mission, d'avoir terminé quelque chose, une œuvre que Dieu lui avait donnée à faire, pour rendre grâce à Dieu. Il rendait grâce au début, pendant et après que la chose ait été accomplie. Nous devons, mes très chers frères, nous devons remercier Dieu en tout temps et non simplement quand nous estimons que Dieu a mérité notre gratitude. Voilà une chose très importante et avant même d'entrer dans le vif du sujet, si l'on peut dire, les conditions pour une véritable action de grâce, reconnaissance, nous devons prendre conscience que nous ne remercions pas Dieu de la façon dont nous remercions un humain, ou les créatures humaines, ou dont on nous remercie. Regardez un tout petit peu. Quand nous remercions quelqu'un, nous le remercions après qu'il nous ait rendu service, mettons. Nous lui demandons quelque chose, il fait cette chose, nous le remercions, et pour le remercier, nous pouvons même lui donner quelque chose en contrepartie, un salaire, ou une pièce, que sais-je, enfin quelque chose en nature ou autre. Autrement. La psychologie humaine veut que, et ça se voit dans les mœurs de notre peuple, par exemple, que on ne remercie pas avant que l'action ait été terminée, parce que quand on est poli, quand on est français et poli, dire merci signifie en même temps cela suffit. Par exemple, je prends un exemple concret. Par exemple, on vous verse du vin, un verre de vin à table. Vous n'allez pas dire, quand vous estimez que vous en avez suffisamment, vous n'allez pas dire ça suffit. Vous n'allez pas dire stop, à moins d'être grossier, évidemment. Vous allez dire merci. Merci signifie vous pouvez vous arrêter là. Donc, par association d'idées, on évite, quand, disons, dans les rapports humains, ce n'est pas du tout une critique, c'est une description. On évite de se répandre en remerciements tant que l'action n'est pas terminée, sinon cela pourrait induire le prochain qui nous rend service à s'arrêter. Imaginez que quelqu'un nous, balaye une pièce pour nous. Si nous arrivons alors que la pièce est à moitié terminée et que nous disons « Ah, merci beaucoup, merci infiniment, ce que vous avez fait est très bien », mais en insistant, on ne dit pas simplement merci de me donner un coup de main, vous comprenez ce que je veux dire. Si on insiste trop, d'une certaine manière, il va estimer dans son esprit, ou en tout cas c'est le risque que l'on prend, il va estimer que, comme il a reçu le maximum de nos remerciements, il a fait suffisamment. Donc, nous avons tendance, disons, et c'est surtout vrai pour les enfants, nous avons tendance à ne donner les remerciements que quand l'action demandée est faite. Voilà pour les rapports humains, évidemment il y a toujours des contre-exemples, mais contre-exemples ce n'est pas grave. Nous, voilà comment nous nous comportons vis-à-vis des humains. Tout ceci pour dire que nous ne nous comportons pas ainsi vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un se propose pour nous rendre service, nous le récompensons, pour dire bref, par un remerciement à la fin de son action. Or, quand Dieu, après nous avoir sortis des ténèbres où nous étions, fait quelque chose pour nous, nous le remercions de tout cœur avant même qu'il ait commencé la chose pour nous. Pourquoi ? Parce que même s'il ne faisait pas cette chose, il en a déjà tellement fait pour nous, en donnant son Fils unique, afin que nous puissions être sauvés par le versement de son sang, que même si Dieu ne faisait rien de plus, n'avait fait rien de plus que de donner son Fils pour qu'il meure et qu'il nous rachète, meure pour nous et qu'il nous rachète, cela serait suffisant pour le remercier en amont de tout. Nous devons remercier Dieu en tout temps, et non uniquement, disais-je, quand nous estimons qu'il a mérité notre gratitude. Si nous demandons à quelqu'un de nous rendre service, nous lui disons, pouvez-vous, par exemple, pouvez-vous construire un mur ? Il construit un mur, mais il le construit mal. On va le remercier du bout des lèvres, si on ne peut pas faire autrement, ou alors, si on le paye, on va lui dire, bah, écoutez, je ne vous félicite pas, je ne vous remercie pas, parce que vraiment, c'est très mal fait. Il n'en est pas ainsi pour Dieu. Et pourtant, Dieu fait parfois des choses contraires à celles que nous avons demandées. Et lorsque Dieu ne nous accorde pas ce que nous lui avons demandé, contrairement à un homme, nous devons le remercier. Parce que, réfléchissons, sinon ça signifie que nous récriminons envers Dieu, et ça signifie que notre sens à nous, pour ne pas dire nos sens, prime la sagesse divine. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et que Dieu ne nous l'accorde pas, nous n'allons pas ménager ou modérer nos remerciements si nous le remercions, parce qu'il nous semble que Dieu ne s'est pas rendu digne de nos remerciements. D'une certaine manière, par la foi, parce que nos rapports avec Dieu sont normés par la foi, nous devrions le remercier encore plus vivement de ne pas nous avoir donné quelque chose, que plutôt de nous avoir donné quelque chose qui pourrait éventuellement être un piège pour nous. Donnez-moi une très belle voiture. Et voici un généreux donateur qui vous donne une très très belle voiture. Je ne sais pas, une marque très appréciée, que sais-je. Merci mon Dieu, mais le danger c'est de m'enorgueillir de la belle voiture que j'ai reçue. Mon Dieu, donnez-moi une belle voiture. Et le bon Dieu ne permet que nous n'ayons qu'un taco plus ou moins moche, mais utile. Remercions-le encore plus. Il nous a donné ce dont nous avions besoin. Nous avions besoin d'une voiture, d'un véhicule pour bouger, etc. Merci mon Dieu de nous avoir donné ce véhicule sans nous donner le piège avec lui de nous enorgueillir de ce véhicule. Nous devrions donc, mes très chers frères, avant même de voir comment il faut être reconnaissant, nous devrions comprendre que nous devons toujours, en tout temps, et spécialement lorsqu'il semble ne pas nous exaucer, remercier Dieu. Parce que sinon, ça veut dire que nous savons ce qui est meilleur pour nous, nous le savons mieux que Dieu, et ce qui, lorsque Dieu ne nous le donne pas, ce qui implique que ou bien Dieu est méchant, ce qui n'est pas possible puisqu'on l'appelle le bon Dieu, ou bien il est bête, et c'est un blasphème encore plus grand, si j'ose dire. Que faut-il faire pour rendre à Dieu des actions de grâce qui lui soient agréables? Parce que contrairement à un homme que l'on remercie, et il faut toujours remercier les hommes, mais contrairement à un homme que l'on remercie, il y a une façon de remercier qui est poli, il y a une façon de remercier qui est grandiloquente, et d'une certaine manière, lorsque quelqu'un vous remercie d'une façon vraiment trop grandiloquente, je ne dis pas avec effusion, mais trop grandiloquente, d'une certaine manière, ça induit un doute. Lorsque vous achetez quelque chose à quelqu'un, et que cette personne vous dit vraiment « je vous remercie de tout cœur de m'avoir acheté », à moins que ça soit une personne pauvre qui ait vraiment besoin d'argent, mais vous allez dire, si c'est un commerçant quelconque qui vous dira « merci, merci d'avoir acheté cette », en concessionnaire qui vous dira « merci d'avoir acheté cette voiture », vous allez vous dire « pourquoi est-ce qu'il me remercie tellement ?» Ça veut dire qu'en fait, merci de m'avoir débarrassé de ce taco, je vous ai bien roulé. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Lorsque l'on remercie Dieu, un homme, il faut garder une certaine mesure, parce que ça pourrait signifier un sentiment inverse, un sentiment de gratitude. Maintenant, lorsque l'on remercie Dieu, mes très chers frères, il faut que nos actions de grâce lui soient agréables. Et lorsque nous remercions Dieu, nous devons comprendre que, avant même de faire des actions de grâce qui plaisent à Dieu, on peut faire des actions de grâce qui ne plaisent pas à Dieu. Donc, nous l'avons dit, lorsque nous y mêlons une certaine réticence, parce que nous pensons que Dieu ne s'est pas rendu digne de notre gratitude, ce qui est une outrecuidance inimaginable, et puis nous pouvons aussi le remercier du bout des lèvres par négligence. Et nous prions pour obtenir quelque chose, il nous donne cette chose, et nous le remercions comme pour passer. Comme en passant, nous ne serions, si c'était un homme, nous ne serions même pas polis avec lui comme on est poli avec un frère, avec un païen, avec un humain. Donc, il faut que nos actions de grâce soient agréables. Comment faire? Premièrement, il faut que la reconnaissance que nous lui témoignons soit vive. Il faut qu'elle sorte, qu'elle parte d'un cœur brûlant du désir de faire éclater sa gratitude. Le psalmiste nous donne les paroles qui doivent être en quelque sorte la mesure de notre reconnaissance, de notre gratitude envers Dieu. Le psaume qui dit « Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits ?» Tout bien, toute grâce vient de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a accordé la rémission des péchés, l'affranchissement de la servitude du démon. Il nous a accordé la qualité d'enfant de Dieu qui nous donne droit à l'héritage céleste. Tout ceci, nous devons le garder à l'esprit, afin de motiver en quelque sorte, d'exciter notre cœur à la reconnaissance dans les choses petites ou grandes, mais les choses annexes que Dieu nous accorde. Nous lui demandons quelque chose, il nous l'accorde, eh bien, nous devons non seulement le remercier pour ce qu'il nous a donné, ponctuellement, ce dont nous avions besoin, mais nous devons en quelque sorte faire de notre reconnaissance une sorte de résumé de toutes les autres raisons supérieures de lui être reconnaissant. Il faut donc que notre reconnaissance parte d'un cœur brûlant du désir de faire éclater sa gratitude pour tous les autres dons que Dieu nous a faits. Nous prenions un exemple tout bête et tout pratique. Nous avons besoin d'une voiture, nous prions pour une voiture, Dieu nous accorde une voiture. Eh bien, nous devons le remercier aussi pour la grâce qu'il nous a faite de faire de nous ses enfants. Vous allez dire, c'est hors sujet. Ce n'est jamais hors sujet, parce qu'il n'y a pas un seul moment où nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et donc, il n'y a pas un seul moment où nous ne devons pas prendre tous les prétextes, que ce soit, si nous avons vraiment besoin de prétextes, mais pour rendre grâce à Dieu des grâces qu'il nous a faites en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque action de grâce pour un exaucement particulier, doit être une sorte doit exprimer la surabondance de gratitude que nous avons dans notre cœur. Un petit peu comme quand nous avons un généreux bienfaiteur qui nous fait, que sais-je, qui nous offre, je ne sais pas moi, qui nous offre un bien quelconque, très grand, et en plus, il nous donne encore autre chose. Il nous donne, je ne sais pas moi, mettons qu'il donne une maison, par exemple, et puis il donne encore une voiture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, je vous ai remercié pour la maison, donc maintenant, mon remerciement porte sur la voiture. On va dire, merci pour cette voiture, et merci encore pour la maison. Si nous nous comportons de cette manière pour les hommes qui sont très bons et très généreux, a fortiori pour notre Dieu qui est infiniment bon et infiniment généreux. Tout homme qui nous donne quelque chose, d'une certaine manière, y trouve son intérêt. Même lorsque on fait une aumône à l'église, on trouve son intérêt dans le sens où c'est pour l'expiation de nos péchés. Mais Dieu, quel intérêt a-t-il à nous donner la vie éternelle ? Ça le regarde, mais nous pouvons dire qu'il n'a pas vraiment un intérêt particulier. Il ne s'augmente de rien lorsqu'il sauve quelqu'un. Il n'augmente pas sa gloire lorsqu'il fait rentrer dans l'Église une brebis égarée. Donc, nous devons faire éclater notre reconnaissance d'une façon vive. Alors, vous allez dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut être constamment en train d'exulter de joie ? Pourquoi être chiche envers notre Dieu ? Pourquoi être mesquin, mes très chers frères ? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut bondir de joie, taper des mains, si c'est une attitude, comment dire, une attitude qui serait artificielle. Mais pourquoi mesurer notre gratitude envers Dieu ? Merci mon Dieu pour ce don que vous m'avez fait, pour ce présent, pour cet exaucement, et merci pour toutes les grâces, merci d'avoir fait de moi votre enfant, merci pour le sang du Christ qui me lave de mes péchés, merci pour l'Église, en dehors de laquelle je ne peux pas être sauvé. Merci pour les sacrements. Vous allez dire, mais c'est hors sujet. Encore une fois, ce n'est pas hors sujet, parce que nous devons tout à Dieu. Voilà la première façon de rendre à Dieu des actions de grâce qui lui plaisent, qui lui soient agréables. La deuxième façon, et les trois façons se cumulent évidemment, et c'est une façon qui, ce sont trois façons graduées, de telle sorte que la base, c'est de ne pas être ingrat. Ensuite, la première façon, c'est d'être extrêmement reconnaissant. La deuxième façon de faire monter vers lui des actions de grâce qui lui soient agréables, c'est que, mes très chers frères, et là je suis bien sûr les bons auteurs, hein, il faut non seulement le remercier pour les biens temporels et spirituels, mais aussi pour les afflictions. Et c'est pour cela que dans le psaume 33e, il est dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Il n'est pas dit « Je bénirai le Seigneur dans les temps d'abondance, je bénirai le Seigneur lorsqu'il me comble de bienfaits temporels, je bénirai le Seigneur lorsqu'il me comble de bienfaits spirituels, je bénirai le Seigneur en tout temps ». Et David, le saint roi qui a écrit ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous montre l'exemple d'une vie qui, une vie de reconnaissance en tout temps à Dieu, et tous les temps de la vie de David, ça a été le triomphe avec, quand il était enfant avec Goliath, sur Goliath. Ensuite, ça a été la promotion au titre d'officier du roi. Ensuite, ça a été la déchéance, la fuite, la honte de devoir s'humilier devant le roi des Philistins chez lequel il s'était réfugié, les camouflets que le peuple d'Israël lui a fait subir pendant un certain temps au début de sa royauté, lorsque les tribus ne voulaient pas le reconnaître, sauf la tribu de Judas, bref. En tout temps, celui qui nous a appris à dire « Je bénirai le Seigneur en tout temps » nous montre qu'il a remercié Dieu dans tous les temps de sa vie, qui furent des temps fastes et néfastes, des temps de joie et des temps de peine. La sagesse de Dieu nous dispense ce dont nous avons réellement besoin. Ça rejoint un petit peu ce que nous avons dit. La sagesse de Dieu nous dispense ce dont nous avons besoin. Si nous estimons que nous avons besoin d'une consolation divine et que Dieu nous envoie une affliction, il faut le remercier avec toute la reconnaissance, tout l'embrasement de cœur dont nous avons parlé au premier point, parce que c'était cela dont nous avions besoin. Souvent, il nous semble que nous avons besoin de telle ou telle chose, Dieu ne nous les accorde pas. Pourquoi ? Parce que sa sagesse sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Donc le premier point, il faut avoir un cœur brûlant du désir de faire éclater sa reconnaissance. Deuxième point, il faut non seulement le remercier pour les biens, mais aussi pour les maux. Et la troisième façon, de faire monter à Dieu des actions de grâce qui lui soient agréables, c'est que, et c'est très important, et je dirais même que les deux premiers points sont invalidés si l'on se refuse au troisième. Il faut non seulement remercier Dieu pour tous les biens, et donc toutes les afflictions, etc., mais tous les biens qu'il nous a faits, mais aussi pour ceux qu'il a faits à nos frères. Et c'est pour cela que, c'est ce qui fait dire à saint Paul, tous les fidèles, et c'est ce que fait saint Paul. Je rends grâce pour vous à mon Dieu, des actions de grâce, je rends pour vous à mon Dieu des actions de grâce continuelles à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Voilà ce que dit saint Paul. Il rend grâce à Dieu pour ce que les Corinthiens ont reçu de la part de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénirai Dieu en tout temps, et je le bénirai aussi quand il accorde visiblement à mes frères des choses qu'il me refuse à moi. Lorsqu'il bénit certains, et que à moi il me bénit moins, ou il semble ne me réserver que l'affliction. Tous les fidèles, ne faisant qu'un corps dont notre Seigneur Jésus-Christ est le chef, dit un auteur, chaque fidèle prend part au bien de ses frères. Et cet auteur continue en disant, Dieu distribue dans son Église ses dons à qui il lui plaît, afin que tous ceux qui les ont reçus les communiquent aux autres. Si nous voyons que Dieu exauce notre frère et qu'il ne nous exauce pas nous, nous ne devons pas nourrir du ressentiment contre Dieu, et surtout pas contre notre frère. Nous devons humblement remercier Dieu pour les dons et les biens qu'il a accordés à nos frères, afin de pouvoir y avoir part mystérieusement selon la logique et le fonctionnement de la communion des saints. Nous devons donc faire monter à Dieu, mes très chers frères, des actions de grâce qui lui soient agréables. Et saint Paul continue, à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Toute grâce ne vient aujourd'hui que par Jésus-Christ seul. Hors de l'Église, il n'y a point de grâce qui mène au salut. C'est une absolue nécessité de confesser ceci, sinon on n'est pas catholique. Hors de l'Église, il n'y a point de grâce qui mène au salut. Il y a bien les grâces que Dieu donne à ceux qui doivent rentrer dans l'Église, mais pour être sauvés, il faut qu'ils deviennent membres de l'Église. Il y a donc une nécessité de rendre grâce publiquement à Dieu en toute occasion. Et là, j'attire votre attention, mes très chers frères, sur une chose qui était très courante autrefois, et a fortiori dans l'Église primitive, et qui aujourd'hui semble n'être plus que l'apanage des religions qui ne sont pas chrétiennes. Est-ce que nous rendons publiquement grâce à Dieu constamment? Alors, évidemment, la réaction du chrétien moderne, c'est de dire, oui, mais on ne va pas être constamment en train de faire des interruptions pour proclamer la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Bon. Déjà, c'est bien dommage de parler comme ça. Mais enfin, mettons que ça ne soit pas pratique. Il y a des expressions, il y a des mots dans notre religion qui nous permettent, et même en français, qui nous permettent de rendre grâce à Dieu en toute occasion. L'expression « Deo gratias » ou « Dieu merci », pas simplement dans le sens vulgaire dans lequel l'utilisent peut-être encore de temps en temps les païens. « Deo gratias », lorsqu'il nous arrive quelque chose, « Deo gratias », pourquoi faudrait-il que ce soit des religions non chrétiennes qui ont constamment la louange de Dieu ou le remerciement de Dieu ou le nom de leur Dieu à la bouche et que les chrétiens se sentent gênés? Lorsqu'ils font allusion à Dieu, les chrétiens ont l'air de craindre qu'on les prenne pour des imbéciles. Ils ont l'air de passer pour des fanatiques. Passer déjà pour un chrétien, et non pas pour un païen, ça serait déjà pas mal, mes très chers frères. Deo gratias. Il nous arrive quelque chose, Deo gratias. Vous voyez, des choses tout à fait stupides, enfin stupides, terre à terre. On cherche une place pour se garer, on trouve une place, Deo gratias. Merci mon Dieu. Pourquoi? C'est quelque chose de naturel de trouver facilement des places, surtout à notre époque en ville. Vous voyez, il faut remercier Dieu. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui le font, et il faut le faire, mais il faut le faire en tout temps. Pas simplement pour ces choses qui sont visiblement providentielles la plupart du temps. il nous arrive quelque chose. Je viens de me cogner le pied. Deo gratias. Vous allez dire, ça fait bizarre. Vous allez dire, ça ne m'est pas naturel. Ça le deviendra. Il faut le faire. Ça ne m'est pas naturel. Imaginez quelqu'un qui dise, ça ne m'est pas naturel de respirer, vous savez, faire bouger ma poitrine constamment tout au long de la journée, du jour et de la nuit, mais ça ne m'est pas très naturel. Vous allez voir si ça va continuer à pas vous être, si ça continue à pas vous être naturel, vous n'allez pas faire long feu sur terre. Deo gratias. Vous voyez, dans l'adversité, Deo gratias. D'ailleurs, c'est la meilleure façon, ne nous le cachons pas, d'éviter les jurons. Si lorsque nous faisons quelque chose, bon, nous travaillons, nous faisons quelque chose, et la chose nous claque entre les mains, plutôt que de se répandre en jurons et puis après de dire « Ah, j'aurais pas dû jurer, etc. » Mais enfin quand même, c'est Deo gratias. Vous allez dire, mais vous faites de Deo gratias un juron. Il vaut mieux une louange de Dieu qui remplace un juron, plutôt qu'un juron, n'est-ce pas? Deo gratias, ce n'est quand même pas difficile, c'est notre langue, c'est la langue de l'Église, c'est la langue de la liturgie latine. Alors, il faut l'utiliser. Et même, on peut même dire Dieu merci si le latin vous est trop insupportable. Vous voyez, c'est la meilleure façon d'étouffer les jurons, mais aussi d'étouffer l'ingratitude. J'attends quelque chose, j'attends, je ne sais pas, je suis dans une administration, je suis le dernier avant de rentrer, hop, on me dit guichet fermé. Deo gratias, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Vous allez dire ces abrutis qui sont là, ces feignants, etc. Vous pensez que c'est digne d'un chrétien? Deo gratias étouffe les jurons, l'ingratitude, la révolte aussi. Si je dis Deo gratias, est-ce que je peux rajouter quel abruti? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que d'une même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction de Dieu et la malédiction des hommes. Cela ne m'est pas naturel. Eh bien, ça doit le devenir, mes très chers frères. Nous devons rendre grâce à Dieu, et rendre grâce à Dieu, c'est plaire à Dieu. Mais sans lui, nous ne pouvons pas lui plaire. C'est pour cela que dans l'oraison d'aujourd'hui, il est dit ceci. Dirigez nos cœurs, Seigneur, par l'opération de votre miséricorde, car nous sommes sans vous, impuissants à vous plaire. L'opération de la miséricorde de Dieu, dans le contexte du sermon qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa sagesse à l'œuvre pour notre salut. La reconnaissance, c'est donc la soumission à sa volonté. La reconnaissance, c'est beaucoup plus que le fait de dire merci à Dieu. C'est le fait de se soumettre à Dieu. La reconnaissance est donc le contraire de la rébellion. Regardez-vous bien, mes très chers frères. Chaque fois que nous sommes en rébellion contre Dieu, que ce soit directement contre Dieu ou contre les instruments divins, ou contre le prochain, que sais-je, contre les choses, c'est que nous sommes pris en flagrant délit de manque de reconnaissance, manque de gratitude. Pratiquer la reconnaissance, c'est soumettre sa volonté à la volonté divine. C'est exactement le contraire de la rébellion. L'absence ou le refus de reconnaissance est donc, mes très chers frères, la manifestation de notre impuissance à lui plaire. Et c'est exactement ce qui est dit dans l'oraison que je viens de lire. Car nous sommes sans vous, impuissants à vous plaire. Lorsque nous sommes tout seuls avec nous-mêmes, nous sommes impuissants à plaire à Dieu. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, mais comment être avec Dieu? Comment? En étant plein de gratitude, en ayant une gratitude qui déborde, en remerciant Dieu plus pour les adversités que pour les biens temporels, les bonheurs, les joies. Encore une fois, ne nous disons pas « oui, mais ça m'a l'air une attitude complètement artificielle ». C'est une attitude qui est beaucoup plus qu'artificielle, mes très chers frères. Elle est répugnante au vieil homme. Le vieil homme, on ne lui fait pas rendre grâce à Dieu aussi facilement. D'ailleurs, il ne le peut pas, puisque la grâce de Dieu nous est donnée pour la mort et la destruction et la mortification du vieil homme. Donc ne dites pas « ça ne m'est pas naturel ». Dites « ça doit devenir naturel, car ce que je suis par le baptême est beaucoup plus vrai que ce que je suis par la nature. D'ailleurs, je ne le suis plus, puisque je suis mort et ressuscité par le baptême. » Sans Dieu, nous sommes impuissants à lui plaire. Raison de plus d'être constamment tourné vers Dieu et que cela se manifeste par une gratitude, des actions de grâce permanentes. Dans l'Alléluia, il est dit « Les nations révéreront votre nom, Seigneur, et tous les rois de la terre votre gloire. Alléluia. » La caractéristique des chrétiens, c'est le fait de révérer le nom de Dieu, le fait de lui rendre gloire, c'est-à-dire le fait d'être dans la gratitude, la reconnaissance. Le chrétien qui est ingrat est un monstre dont la vue fait horreur aux anges et excite leur colère. La gratitude s'exerce d'ailleurs, mes très chers frères, selon la justice. C'est-à-dire que, écoutez ce que dit saint Paul, mes frères, je rends pour vous, à mon Dieu, des actions de grâce continuelles à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, en qui vous êtes devenus riches de toutes sortes de biens, de tous les dons de la parole et de la science, le témoignage du Christ ayant été solidement affermi parmi vous, de telle sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Il n'est que justice d'être reconnaissant envers Dieu. C'est la pire des injustices que nous pouvons faire envers Dieu que de lui être ingrat. Car il nous a enrichis, nous qui étions pauvres. Il nous a rendu la vie, nous qui étions morts. Il nous a fait enfants de Dieu, nous qui avions pour père le diable. Comment ne pas être reconnaissant en toute chose? C'est être mesquin dans notre reconnaissance que de ne pas être reconnaissant en tout temps, en tout lieu et pour toute occasion. Ce n'est donc pas la reconnaissance, ce n'est donc pas une fleur que nous faisons à Dieu, mais un hommage nécessaire qui suit un acte réel de sa miséricorde, miséricorde évoquée par l'oraison, l'opération de votre miséricorde, une miséricorde agissante envers nous. Voyez, mes très chers frères, en amont de notre gratitude, il y a la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons persévérer dans la gratitude. Parce que saint Paul dit, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les auteurs, en commentant ce passage, nous disent que Dieu nous a tout donné pour que nous persévérions jusqu'à la fin, et il continue de nous donner sa grâce, mais il nous a donné l'Église, il nous a donné les sacrements, il nous a donné la doctrine, il nous a donné les ministres de l'Église, il nous a donné les frères, il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous persévérions et que nous allions jusqu'au ciel. Alors, il n'y a aucune raison de ne pas persévérer dans la gratitude. C'est là où nous voyons que la gratitude est véritablement la respiration du chrétien. La raison de persévérer dans la gratitude, c'est que nous avons tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Paul ailleurs. Tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, nous le trouvons en abondance dans l'Église. Et cela est confirmé par l'offertoire qui dit « Moïse consacra un autel au Seigneur, offrant sur cet autel des holocaustes et immolant des victimes en présence des enfants d'Israël. Il fit le sacrifice du soir, sacrifice d'agréable odeur au Seigneur Dieu. » Si Dieu avait déjà tout prévu dès l'Ancien Testament par le système sacrificiel de Moïse qui était l'ombre des choses à venir, a fortiori, il a tout prévu dans le Nouveau Testament, depuis que le Messie est arrivé. Tout est dans l'Église, et au cœur de l'Église, il y a le Saint-Sacrifice de la Messe, qui est le moyen unique par lequel s'opère le divin échange dont il est fait mention dans la secrète. Ô Dieu qui, par l'échange admirable qui s'opère en ce sacrifice, nous donnez d'avoir part à votre unique et souveraine divinité. Rien que pour le Saint-Sacrifice de la Messe, nous devrions être éperdument reconnaissants envers Dieu. Mais si j'ose dire, le Saint-Sacrifice de la Messe vient longtemps après que Dieu nous ait accordé la grâce première, la rémission des péchés, l'illumination, pour que nous puissions rentrer dans l'Église où nous trouvons le Saint-Sacrifice de la Messe. Donc nous devons arriver au Saint-Sacrifice de la Messe avec un cœur déjà débordant de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour que nous arrivions jusque-là. Aujourd'hui, participer à une vraie messe est devenu quelque chose d'extrêmement rare. Sommes-nous d'autant plus reconnaissants? Non. Alors, en tout cas, pas tous. Il y a beaucoup de gens qui, alors qu'ils pourraient, avec un peu d'humilité, participer au Saint-Sacrifice de la Messe, préfèrent dire « un jour il n'y aura plus de prêtre, un jour il n'y aura plus de prêtre ». C'est un blasphème, c'est un mensonge. À moins que ça veuille dire « vous n'aurez plus que des évêques », etc. Mais je ne crois pas que ça soit dans ce sens-là où ils le disent. Un jour vous n'aurez plus de prêtre, c'est un mensonge, c'est un blasphème, c'est une hérésie, si j'ose dire. Hein, c'est une hérésie contre l'espérance. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et c'est pour cela que nous devons être reconnaissants envers Dieu. Évidemment, si on vit dans cette idée qu'un jour nous n'aurons plus de prêtres, très rapidement nous allons tomber dans, finalement, dans une certaine ingratitude envers Dieu. Souvenez-vous ces paroles de l'infâme Drummond qui, devenant aveugle à la fin de sa vie, après avoir passé toute sa vie à remuer l'ordure et finalement à blasphémer le Christ et à blasphémer l'Ancien Testament et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Après tout ce que j'ai fait pour le bon Dieu, voilà comment il me traite. Après tout ce que vous n'avez pas fait pour le bon Dieu, il vous traite d'une façon extrêmement bénigne, en tout cas ici-bas. » Nous aurons des prêtres, a fortiori des évêques, jusqu'à la fin du monde. Et si le monde doit encore durer 1000 ans, nous aurons encore pendant 1000 ans des évêques, des prêtres. Mes très chers frères, le Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à la fin de, non pas d'un temps, d'une monde comme disent certains hérétiques, mais nous sommes certains que le Christ sera avec nous indéfectiblement jusqu'à la fin du monde. Et voilà une raison d'être plein de reconnaissance. Il y a des évêques, et on les conspue, on les taxe d'hérétiques, on les considère comme fréquentables parce qu'ils n'ont jusqu'à présent ils n'ont pas fait la preuve de leur infréquentabilité. Est-ce que c'est de la reconnaissance que de s'ériger en censeur indiscret? Mes très chers frères, voyez, il y a mille et une façons d'être reconnaissant, de nourrir notre reconnaissance. Et s'il nous semble que dans notre petite vie nous avons certaines raisons d'être mesquins envers Dieu, souvenons-nous de toutes les autres raisons que nous avons, nous, chrétiens, de lui être reconnaissants. Les promesses qu'il a faites à l'Église, l'assistance indéfectible du Christ, notre unique chef, à son Église, toutes les grâces qu'il nous donne par l'Église, l'existence même de l'Église, et toutes les grâces que Dieu donne à ceux qui doivent hériter du salut, pour parler comme saint Paul. Tout ceci, nous le savons, et l'Église sait que nous le savons. Et c'est pour cela qu'à la fin de la secrète, que nous avons commencé à lire, elle nous fait dire ceci, « Ut sicut tuam conoscimus veritatem, siceam dignis moribus assequamur. » Faites que, connaissant votre vérité, ou de même que nous connaissons notre vérité, nous nous attachions également à la suivre par une conduite digne d'elle. C'est une chose merveilleuse que de connaître la vérité, que d'être orthodoxe. C'en est une autre que d'avoir une conduite digne de cette vérité. Eh bien, c'est exactement ce que l'Église nous fait demander à Dieu aujourd'hui pour soutenir notre reconnaissance. Ne pas être reconnaissant en tout temps et pour tout envers Dieu, c'est être un païen, c'est être un athée. Et on l'est encore quand on professe la reconnaissance, mais que nos mœurs ne sont pas dignes de la vérité que nous professons et que nous connaissons. La reconnaissance, mes très chers frères, ne s'exerce que dans l'Église. On ne peut pas être reconnaissant envers Dieu, abstraction faite de l'Église. Nous ne pouvons être reconnaissants envers Dieu pour tout ce que Dieu nous a fait à nous personnellement, parce qu'il nous l'a accordé au sein de l'Église dont nous sommes des membres, des tout petits membres, indignes, mais des vrais membres. C'est pour cela que, dans le graduel, nous avions commencé par ces mots, nous terminerons par ces mots, il est dit « Je fus dans la joie quand on me dit « Nous irons à la maison du Seigneur, que la paix soit dans ton enceinte et l'abondance dans tes palais. » Parlant de Jérusalem. Nous ne pouvons être véritablement reconnaissants que quand nous sommes dans la joie d'être dans l'Église ordonnée, dans l'Église en union avec les prêtres, avec les évêques, avec les fidèles orthodoxes, comme le fait dire le canon de la messe à chaque messe, lorsque nous sommes conscients que la plus grande raison est finalement l'unique et perpétuelle raison d'être reconnaissant envers Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, en dehors duquel il n'y a ni grâce, ni salut, ni bienveillance divine. Deo gratias, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.